accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. La Hongrie crée à nouveau des remous sur la scène européenne. Cette fois, il s'agit d'une nouvelle loi adoptée aujourd'hui par le Parlement européen qui stigmatise les ONG recevant des dons de l'étranger. Un texte qui n'est pas sans rappeler une loi votée en Russie en 2012 et qui avait contraint de nombreuses associations à se déclarer agents de l'étranger et pour certaines à cesser leurs activités. Pour en parler, on retrouve Florence Labruyère à Budapest. Florence, que dit ce nouveau texte de loi voulu par le Premier ministre Viktor Orban ?
Eh bien, les ONG qui reçoivent des dons de l'étranger de plus de 23 000 euros par an devront s'enregistrer auprès d'un tribunal et elles devront imprimer la mention « Organisation financée de l'étranger » sur tous leurs documents, leurs communiqués de presse, leurs sites web, leurs publications. Si elles ne le font pas, elles risquent d'être dissoutes. Elles seront aussi obligées de publier sur un site en ligne le détail exact des dons reçus de l'étranger et les noms des donateurs. Alors en fait, leurs comptes sont déjà publics car la loi actuelle est très strictes. Les ONG publient ces informations sur leur site internet. Donc sur ce point, la loi leur demande de faire quelque chose qu'elles font déjà.
Alors pour quelle raison le gouvernement veut-il faire voter cette loi, Florence ?
Officiellement, c'est pour plus de transparence, pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Mais curieusement, les organisations religieuses, sportives, les fondations publiques et les associations des minorités ethniques ne sont pas concernées par la loi, même si elles reçoivent de l'argent de l'étranger. Et puis, il y a aussi ces pseudo-ONG qui ont été fondées par le gouvernement et dont les comptes ne sont pas du tout transparents. Par exemple, le Forum pour l'Union civique, une organisation fantôme, elle organise de temps en temps une manifestation de soutien à Viktor Orban, mais elle n'a pas vraiment de membres, eh bien elle vient de recevoir 1,5 million d'euros de la Compagnie nationale d'électricité. Alors pourquoi ce don ? Comment cet argent a-t-il été dépensé ? On n'en sait rien. Les comptes de cette association sont totalement opaques. Donc l'objectif de transparence est vraiment un argument cousu de fil blanc.
Et donc finalement, qui est dans le collimateur de cette nouvelle loi ?
Eh bien, en gros, 12 d'associations qui sont partiellement financées par la fondation Open Society du milliardaire George Soros. Alors, certaines s'occupent, par exemple, des handicapés. D'autres sont des gardiennes de la démocratie, comme le comité Helsinki qui défend les droits des demandeurs d'asile, ou encore l'association pour les libertés civiles qui défend les citoyens contre les abus de l'État. Ces ONG ont mis en évidence la façon dont le gouvernement de Viktor Orban démolit l'État de droit, et elles sont donc devenus un ennemi public. Ce ne sont pas des ONG, ce sont des activistes politiques payés par l'étranger, a dit lui-même Viktor Orban, qui n'hésite pas à parler du réseau mafieux de George Soros. Cette loi est donc clairement une attaque politique contre ces associations, et la loi va sans doute dissuader les Hongrois de leur donner de l'argent ou de travailler pour elles, même à titre bénévole. Et puis ces ONG auront peut-être du mal à louer des bureaux, car les propriétaires auront peur d'avoir des ennuis. C'est une stratégie de la peur que met en place Viktor Orban pour asphyxier la société civile et étouffer dans l'œuf toute future opposition.
Merci Florence Labruyère à Budapest, à très bientôt. Corruption, absentéisme, incivilité au Parlement, on pourrait croire qu'il s'agit là des slogans scandés hier lors des grandes manifestations anti-Poutine en Russie, manifestations qui ont conduit à la condamnation à 30 jours de réclusion de l'opposant Alexei Navalny et à l'arrestation de 1500 manifestants. Ces slogans sont en fait ceux qu'utilisent aussi les Ukrainiens pour dénoncer leur classe politique et leur mascotte n'est pas un canard en plastique comme en Russie, mais un petit monstre en peluche appelé Jdoun ou Pochekoun en ukrainien à Kiev, Sébastien Gobert.
C'est un petit monstre gris boudiné avec une tête d'otarie, des yeux vitreux et des bras sagement croisés. En position assise, il attend. D'ailleurs, son nom, le Jdoun ou Pochekoun en ukrainien, veut littéralement dire « celui qui attend ». C'est en fait une œuvre de l'artiste néerlandaise Margriet van Brevoort qui avait voulu illustrer la longue attente des patients dans les hôpitaux. Sa création a fait le buzz sur les réseaux sociaux russes avant d'être reprise par un député ukrainien, le nationaliste Vladislav Bereza. En février, il a amené une petite peluche du Jdoun dans l'hémicycle du Parlement pour protester avec ironie contre l'absence de ses collègues. L'Ukraine, expliquait-il, attend que les députés et le gouvernement se mettent au travail et fassent avancer le pays. L'événement avait fait sensation, même s'il avait provoqué des réactions de tristesse des internautes, leur rappelant l'inertie des réformes depuis quelques mois. Certains s'étaient aussi offusqués de voir leur parlement changer en arène de cirque une fois de plus. L'Assemblée ukrainienne est mondialement connue pour les débats musclés de ses députés qui tournent régulièrement au combat au poing. Quoi qu'il en soit, l'utilisation du jdoun en Ukraine a prouvé deux choses. D'abord que les réseaux sociaux russes et ukrainiens restent intimement liés malgré le contexte de guerre entre les deux pays. Et deuxièmement que les Ukrainiens ne sont pas les seuls à attendre des changements dans leur vie quotidienne. Le jdoun apparaît désormais dans les débats d'internautes, dans les manifestations critiques du gouvernement et dans toutes sortes de montages photocomiques. Il est partout comme la mascotte de ceux qui espèrent encore.
Любця моя, ой коці з ноч ходила, любця моя, ой коці з ноч ходила, любця моя, ой коці з ноч ходила, да те не було, так довго домов.
À l'époque yougoslave, tout le monde parlait le serbo-croate ou le croato-serbe, comme on voudra. Mais depuis la guerre des Balkans, le nationalisme a aussi fait son intrusion dans la langue parlée, chaque pays faisant preuve de beaucoup d'imagination pour se distinguer à tout prix et parfois artificiellement de ses voisins. Pour en finir avec cette absurdité, de nombreux intellectuels bosniens, croates, monténégrins et serbes ont lancé une initiative pour qu'on reconnaisse à nouveau cette langue commune qui est la leur. C'est le reportage à Belgrade de Philippe Bertinchamp.
Ne tražimo zajedničko ime jeziku. Mi ne želimo jezik nazvati jugoslavenskim, mi ne želimo jezik nazvati.
Nous sommes à Sarajevo où la presse des Balkans est réunie pour une conférence très attendue. L'annonce de la déclaration pour une langue commune. Élaborée par une trentaine de spécialistes, cette déclaration du 30 mars entend combattre le regain de nationalisme linguistique dans les pays de l'ancienne Yougoslavie. Vladimir Arsenievich, romancier, traducteur, éditeur et fondateur de l'association Crocodile à Belgrade, est à l'initiative du projet.
Selon les spécialistes, on se comprend bien plus qu'à 75%, ce qui est nécessaire pour considérer qu'une langue est la même. Le niveau de compréhension dans la région est de 90%. Malgré tout, les gens croient que l'on parle des langues différentes. C'est l'une des conséquences négatives des politiques identitaires menées dans les Balkans.
Au tournant des années 90, à la veille des guerres en Yougoslavie, la série télé surréaliste Top Lista Nadrealista sur TV Sarajevo tournait déjà en ridicule ce nationalisme linguistique. Par exemple, les six façons de prononcer ya, chitam, je lis, en serbe, croate, bosnien, herzégovinien, monté et négra. Absurde, mais prémonitoire. Ranko Bugarski est professeur de linguistique à l'université de Belgrade. Il raconte comment, au XXe siècle, sa langue a changé de nom.
Je suis né en 1933 à Sarajevo, à l'époque du royaume de Yougoslavie. Ma langue maternelle était le serbo-croato-slovène. En 1941, la guerre a éclaté et Sarajevo est tombé sous la coupe de l'État indépendant de Croatie. Ma langue a été appelée croate. À l'école primaire, j'ai donc appris le croate. Après la fin de la guerre, c'est devenu le serbo-croate ou croato-serbe. Maintenant, cette même langue de Sarajevo, la mienne, c'est trois langues, le serbe, le croate et le bosnien.
Après les guerres de Yougoslavie, le serbo-croate s'est dissous. Le croate a disparu de Serbie, le serbe de Croatie. Quant au bosnien, il s'est en quelque sorte extrait tout seul pour se distinguer du serbe et du croate. Aujourd'hui encore, chaque pays imagine des stratagèmes pour se distancier de ses voisins. En Croatie, on crée des mots nouveaux. En Bosnie, on turcicise la langue. Au Monténégro, on invente des lettres. Et en Serbie, on se contente de répéter que les autres parlent serbe ou l'une de ses variantes. Fabriquer des identités artificielles a toutefois un prix, celui de la ségrégation scolaire en Bosnie-Herzégovine ou à Vukovar, en Croatie.
Entre eux, les enfants parlent évidemment la même langue, mais en classe, ils sont séparés. Les programmes et manuels scolaires sont différents. À l'école, même les entrées sont séparées. Les enfants serbes par ici, et puis par exemple les bosniens par là. Ce n'est pas seulement absurde, c'est aussi dangereux. C'est ainsi que l'on produit des jeunes nationalistes.
do tri glava. Od Đerdapa pa do Jadrana.
Bien sûr, la déclaration n'a pas plu à tout le monde. En Croatie notamment, la présidente conservatrice a affirmé que cette prétendue langue commune était un projet politique mort avec la Yougoslavie socialiste. Les initiateurs de la déclaration ont pourtant bien veillé à ne froisser personne. Igor Štiks est sociologue et écrivain. Il vit à Sarajevo, Zagreb et Belgrade.
Chaque peuple, chaque nation a le droit de standardiser la langue commune, la nommer comme elle veut, mais aussi les utilisateurs individuels ont aussi le droit de nommer leur propre langue comme ils veulent. Donc c'est vraiment une déclaration qui veut simplement arrêter les pratiques complètement absurdes et même tragiques liées à la langue.
La déclaration a jusqu'à présent recueilli plus de 8400 signatures. En serbe, café se dit kafa, en croate, kava, en bosnien, karva. Et dans n'importe quel kafana, pourvu qu'il y ait de l'eau, on vous le servira.
They got to know, they got to know. My name is Ira and I'm here to say, a lot of my friends are secretly gay. Born that way and scared to admit because of the stigmas attached to it.
Les violences homophobes sont en hausse en Bosnie-Herzégovine, en tout cas pour celles qui sont déclarées, et c'est surtout dans la cellule familiale qu'elles s'exercent. Tel est le constat dressé par les associations qui déplorent que la loi soit inefficace. Sur place, Simon Rico.
Il existe des lois en Bosnie-Herzégovine pour réprimer les violences ou les discriminations à l'égard des homosexuels et des transgenres, mais elles sont trop rarement appliquées. Fait nouveau, le nombre d'incidents recensés croît, particulièrement dans le cadre familial. Voilà ce que montre le dernier rapport annuel sur le respect des droits des personnes LGBT dans le pays. L'an dernier, pas moins de 140 cas ont été répertoriés par le centre ouvert de Sarajevo qui s'occupe de venir en aide aux LGBT. L'avocate de l'ONG, Vladana Vasic, raconte que ce sont souvent des proches, pères, mères, frères, sœurs ou cousins, qui s'en prennent à eux. Il arrive que les victimes soient enfermées, privées de leur liberté de mouvement ou forcées à se soigner, entre guillemets, à cause de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, poursuit l'avocate. Certes, il existe une législation, mais les violences et les incitations à la haine envers la population LGBT ne sont toujours pas punies de manière satisfaisante. Pire, dans la plupart des cas, les personnes LGBT ne déclarent même pas à la police les agressions dont elles sont victimes. Les chiffres du défenseur des droits confirment d'ailleurs ce que déplorent les associations de défense. Très peu de plaintes pour agressions homophobes ou transphobes sont enregistrées dans le pays. Attaques et discriminations sont pourtant légion, que ce soit sur Internet, où se multiplient les discours de haine, sur les murs des villes couverts de graffitis insultants, ou dans les médias et l'espace public en général, dont l'accès est particulièrement restreint aux LGBT. Face à ce triste constat, homosexuels et transgenres ont voulu organiser une marche pour sensibiliser la population bosnienne, mais les autorités de Sarajevo ne l'ont pas autorisé. La Bosnie-Herzégovine est le seul pays des Balkans où aucune gay pride n'a jamais pu être organisée.
Les plantes médicinales sont-elles promises à devenir le nouvel or balte ? C'est la conviction d'une pharmacienne de Lituanie qui a lancé l'exploitation et la commercialisation de toutes ces plantes aux vertus curatives. Sur ses 21 hectares, Jadwiga Bavlovuce produit plus de 3 tonnes de plantes médicinales avec le soutien de la politique agricole commune. C'est le reportage de Marielle Vitureau.
Dans son bureau, Jadwiga Balvočute sert la tisane aux invités, un mélange désaltérant et équilibré qui convient à tous. Dans sa petite maison en bois traditionnel, l'odeur des plantes séchées est presque enivrante. Elles sont partout et sous toutes les formes, tout juste récoltées, étalées sur les séchoirs, en train d'être débitées à la bonne taille, ou bien rangées par ordre alphabétique dans de gros sacs de papier prêtes à infuser. Une longue natte grise enroulée en chignon, Jadwiga Balvočute est une pionnière.
J'ai constaté que la Lituanie importait des herbes médicinales médicinales de mauvaise qualité, alors que nous avons ici une nature exubérante et un vrai savoir. Personne ne comptait se lancer dans l'aventure. Alors je me suis dit, pourquoi pas moi ? Mon ambition de pharmacienne s'est réveillée.
Le hameau de Givoleil, où Jadwiga fait aujourd'hui sécher les plantes, emballe et prépare les mélanges, est aussi le lieu de son enfance. Quand la Lituanie retrouve son indépendance, la botaniste récupère le terrain paternel. En l'an 2000, à 56 ans, elle obtient son diplôme de pharmacienne et se lance dans l'aventure des plantes médicinales. L'antenne locale de l'Agence pour l'emploi la soutient avec un financement. Le médecin du village voisin aussi. Si Jadwiga Balvočute cultive de nombreuses plantes comme le calendula, elle récolte aussi les plantes sauvages dans les forêts alentours. Daiva, la botaniste de chez EcoAgros, l'organisme de certification écologique, est venue inspecter ces terrains.
Ici, elle récolte la potentille dressée, les feuilles de myrtille. Si nous nous introduisions plus dans les bois, nous trouverions aussi également des érelles. Le garde forestier en charge du secteur a assuré qu'aucune substance chimique n'est présente sur le site. Mais nous devons nous en assurer. Il faut vérifier que les troncs d'arbres coupés ne sont pas traités avec des produits insecticides.
Dans le séchoir, les fleurs de marronnier exhalent une odeur entêtante. Aujourd'hui, Jadwiga Balvočute ne reçoit de l'Union européenne qu'une aide de 500 euros par hectare de plantes cultivées, au même titre que les autres agriculteurs. Mais à ses débuts, les financements européens lui ont donné un bon coup de pouce.
Pour produire des infusions de plantes médicinales, il faut d'abord pouvoir faire sécher les plantes. J'ai reçu près de 60 000 euros de l'Union européenne pour faire construire le bâtiment d'accueil et les entrepôts. Mais quand j'ai dû faire construire le séchoir chauffé, j'ai tout financé moi-même.
Chaque année, l'exploitation traite plus de 15 tonnes de plantes. Une fois séchées et emballées, elles ne représenteront plus que 3 tonnes. Jadwiga Balvočute écoule toute sa production en Lituanie, dans des magasins, dans des pharmacies ou lors de foires. Elle reçoit de nombreuses demandes de consultations individuelles. Et dans des gros cahiers qu'elle conserve, elle note les symptômes et le mélange qu'elle préconise. La pharmacienne, qui s'est intéressée dès son enfance aux plantes, note un regain d'intérêt pour ses remèdes. Les couples ayant des problèmes de fertilité sont nombreux à la consulter. Pour autant, le secteur ne se développe pas beaucoup. Daiva, la botaniste, le remarque aussi.
Ces derniers temps, nous n'avons eu aucune demande de la part d'exploitants pour certifier leur production de plantes médicinales. En partie car l'État ne soutient pas vraiment les exploitations biologiques. Il y a environ 15 exploitations qui récoltent les plantes sauvages et 6 d'entre elles se spécialisent dans les plantes médicinales.
Les réglementations européennes sont parfois un frein au développement de son activité. Bien que diplômée en pharmacognosie, l'étude des organismes qui peuvent avoir des effets médicamenteux, Jadwiga Balvočute a dû revoir la composition de ses tisanes.
Mon premier mélange était destiné à soigner la bronchite. J'en ai désormais 54 et le dernier lutte contre l'anémie. Nos infusions sont considérées comme des compléments alimentaires, pas comme des médicaments. Notre production a donc dû changer, mais au final, on peut toujours remplacer une plante par une autre.
Mais produire ces tisanes a un coût, une main-d'œuvre importante. L'exploitation emploie 24 personnes à temps plein. Il faut rajouter les saisonniers qui assurent la récolte. Certaines plantes ne fleurissent qu'une semaine durant. Il faut donc se dépêcher. Edita Karboskiene est responsable des exploitations écologiques dans une association représentant les intérêts des agriculteurs.
En Lituanie, nous pourrions consacrer plus d'hectares à la culture de plantes médicinales, mais aussi à la récolte des plantes sauvages. Elles sont de plus en plus demandées, autant dans la fabrication de médicaments que pour la préparation de toutes sortes de compléments alimentaires. Nous avons peu de sociétés qui transforment cette production. Elles expliquent souvent vouloir augmenter la part de plantes locales, mais le plus souvent, elles sont rebutées par le coût peu concurrentiel sur le marché.
Jadwiga Balvočute a aujourd'hui 73 ans. Elle se démène toujours. Elle souhaiterait plus de concurrence, ce qui renforcerait le secteur, ce que deviendra son exploitation à l'avenir. Elle y pense parfois. Elle voudrait bien que ce soit un pharmacien qui la reprenne.
Un reportage soutenu par la direction de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr et sur les réseaux sociaux. À demain.